pas d'avant et après dans la Torah. Ce qui est censé signifier qu'on ne doit pas prêter trop attention, c'est moi qui ajoute trop, à l'ordre des récits. Et cependant, l'expérience nous montre que si on ne lit pas le texte dans l'ordre où il est écrit, dans l'ordre où nous a été transmis, alors on perd l'essentiel du message d'information que la Torah veut révéler. En ce sens qu'il faut faire l'effort de lire à chaque verset comme si on ne connaissait pas la suite. Si on projette dans la lecture du verset que nous sommes en train d'étudier, ce que nous avons déjà dans la mémoire de lecture précédente de ce qui va suivre, on est empêché de découvrir ce que le verset veut nous faire savoir du point de vue déjà de l'information immédiate. Par conséquent, ce que je viens de dire, qui est une expérience pédagogique pour les enseignants, mais que chaque lecteur de la Bible peut avoir, puisque nous relisons ce texte perpétuellement, et pas seulement chaque année. Vous arrivez à m'entendre quand même? Oui, parce que je voyais des visages angoissés, alors je ne sais pas pourquoi. Eh bien, ça semble donc contredire ce principe que j'ai d'abord cité en hébreu, « En mukdam ou mukhar batora ». Il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah, je traduis littéralement, et ça voudrait dire il n'y a pas d'ordre chronologique. Effectivement, vous pouvez rencontrer tel sujet qui historiquement est censé se passer avant dans l'ordre du récit, avant un récit que l'on aura après. Et cependant, je voudrais en dire quelques mots. Malgré tout, il y a l'ordre de la lecture, il y a l'ordre du mikra, de la manière de lire. Ce message qui nous est transmis depuis le premier mot jusqu'au dernier de ce texte. Et alors, j'essaierai d'éclairer le sens qu'il faut donner à cette phrase « En mukdam umukhar batorah » par un sujet apparemment très différent et nous allons nous appuyer sur un enseignement du Gaon de Vilna sur une citation du Zohar qui dit ceci « Akol bidei shamaim » Non, slicha, je me suis trompé de citation à cause de la porte. C'est « Akol talui bamazal » Afilu Sefer Torah Shebehechal. Littéralement, ça signifie tout dépend du déterminisme. Le mazal, c'est une des expressions pour dire le déterminisme. J'en ferai pas l'historique. Ne traduisez pas la chance. Et c'est un sens tardif du mot mazal. Mazal, ça veut dire primitivement les constellations, les mazalot. Le mazal, c'est la constellation. Et donc, en se référant à ce qu'a été la mentalité pré-biblique, le fait que tout phénomène dans le monde dépend des influences cosmiques qui l'entourent. En langage conceptuel moderne, ça veut dire le déterminisme des conditionnements des lois de la nature ou des déterminations des lois de la nature. Donc cette phrase dit ceci, « Akol talui bamazal » tout dépend du conditionnement du déterminisme. Conditionnement et détermination, c'est à des niveaux différents, mais je l'emploie simultanément. Même le Sefer Torah qui se trouve dans le Hechal, dans le sanctuaire. C'est une phrase un peu difficile à intégrer dans l'atmosphère de la tradition juive. La Torah dépendrait du déterminisme, qu'est-ce que ça signifie? Et alors, le Gaon de Vilna a expliqué cette phrase du Zohar par un mot. Il a dit « Sefer », le livre. C'est-à-dire, il y a une différence entre le livre, qui est le support matériel de l'écrit, de l'écriture, de ce qui est dit dans le livre comme livre, la matière du livre, est soumise aux lois du vieillissement, à toutes les lois du conditionnement de tout ce qui existe dans le monde, peu importe les catégories par lesquelles on définirait notre vision du monde, à différents âges de la culture universelle, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la formulation, médiévale ou moderne ou antique, c'est l'idée que tout ce qui existe dans le monde est soumis à des lois. Et donc, le Gaon de Vilna a précisé la portée de cette citation. Tout est soumis au mazal, au déterminisme, même le Sefer Torah qui est dans le Hechal. Est-ce que c'est suffisamment clair? Ça veut dire qu'il faut indiquer une différence de niveau, de nature, entre la Torah et le Sefer Torah. Le livre de la Torah, c'est le livre où la Torah a été mise par écrit. Alors le livre est soumis à ces conditionnements, mais pas la Torah. La Torah est au-dessus de tout conditionnement. Eh bien, de la même manière, si nous revenons à notre première formule, En mukdam umukhar batorah, si nous lisons cette formule du Talmud, cette fois, à l'aide du commentaire du Van de Vilna sur la deuxième formule que je citais du Zohar concernant le Sefer Torah, alors cela signifie ceci, c'est « en mugdar, en mugdam ou mouchar bat Torah ». Mais dans le Sefer Torah, il y a « mugdam ou mouchar ». Est-ce que c'est suffisamment clair? On va attendre que ce soit... rapprochez le micro. Vous voyez, tout est soumis au conditionnement des lois de la nature. Bien, est-ce que ça va mieux quand même? Non?
On peut dire un mot si possible.
Oui, je vais essayer. Non, ça ne marche pas. Si, quand même. C'est celui-là.
Justement, essaye peut-être avec celui-ci.
Voilà, vous m'écoutez mieux? Oui, il semble. Eh bien, voilà. Alors, enlève celui-là. Non, j'entends un head. Un écho, oui. Ça va? Ça m'oblige un peu. Donc, analyse. C'est pour dire essentiellement qu'il faut lire le texte dans l'ordre où il nous est donné. Pour aller directement à notre sujet, ensuite d'ailleurs, si vous avez tout à l'heure, après l'exposé, des questions portant sur telle ou telle analyse, on les reportera pour la fin de l'exposé. Je suppose que ce que l'on apprend sur ces deux formules, Akol Talouy Bamazal et En Mugdam Ou'Mouchar Batorah, induisent énormément de questions, mais reportez-les à la fin. Et en particulier, en ce qui concerne notre sujet, nous sommes habitués à l'idée d'un Moïse qui est connu comme étant hébreu, chef des Hébreux, prophète des Hébreux. Le nom de Moïse est relié à la Torah et comme étant celui grâce à qui les événements de la sortie d'Égypte ont pu avoir lieu. Tout ce que je viens de signaler nous est très familier, mais a posteriori de ce que nous lisons dans le récit de l'histoire de Moïse dans la Torah. Une fois ce récit achevé, alors nous projetons sur l'identité de Moïse ce que je viens d'essayer de décrire très brièvement. Mais si nous reprenons le récit dans l'ordre depuis le commencement, il en est tout autrement. Et il y a un premier paradoxe, énormément de paradoxes dans le fait que d'abord Moïse va nous apparaître comme étranger à l'histoire d'Israël. Il y a deux parties dans la vie de Moïse, en fait il y en a trois, mais je schématise en deux grandes parties. La première partie où Moïse est dans le palais du Pharaon, fils adoptif du Pharaon, héritier présomptif du Pharaon, c'est-à-dire l'homme par qui, à travers qui, l'histoire de l'humanité aura emprunté la voie royale égyptienne, de la civilisation égyptienne. C'est à partir d'un certain épisode de sa vie que nous allons étudier sur le texte qu'on vous a distribué, qu'il va opter pour l'identité hébraïque. Alors, il faut d'abord redécouvrir cela. Et il y a deux figures de Moïse, principalement, qui vont nous apparaître dans cette analyse. D'abord, Moïse en tant qu'homme politique, en tant que chef politique, qui va être la cause et la raison d'une révolution d'une importance extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. La civilisation humaine passera par la Bible et par Israël, et non pas par la civilisation égyptienne des pharaons de l'Antiquité, à partir de cette option de Moïse qui fait basculer toute l'histoire du côté d'Israël. Et il est inutile d'entrer dans des détails, même de rappel historique, je crois qu'il suffit de rappeler le phénomène massif pour se rendre compte de son importance. Il y a dans un des versets qui parle de ce choix de Moïse, lorsque Moïse voit l'homme égyptien persécuter l'homme hébreu, alors il prend parti pour l'homme hébreu, nous allons revoir ce texte un peu en détail, il le frappe et il l'enfouit dans le sable. On pourrait dire, en paraphrasant, que Moïse a enfoui la civilisation égyptienne dans les sables. Le mot d'ailleurs qui dit en hébreu le sable, c'est le mot de chol, qui signifie simultanément en hébreu ce qui est profane, c'est-à-dire tout se passe comme si la civilisation égyptienne n'est plus le véhicule de la révélation du sacré pour l'humanité, elle devient une civilisation profane, enfouie dans les sables, si j'ose dire, et là de manière très littérale, puisque les vestiges des temples égyptiens sont évidemment enfouis dans les sables, et tout ceci est le résultat d'une option de Moïse que nous devons étudier, dont nous devons essayer de comprendre les conditionnements et les motivations. Et le premier paradoxe, c'est que Moïse nous apparaît comme un chef politique qui déclenche une révolution dans la société d'Israël et donc dans la société égyptienne. Alors le grand paradoxe, c'est qu'on va s'apercevoir qu'il ne semble pas du tout préparé, cependant, à organiser une société. Il y a en particulier le chapitre 18 de l'Exode que nous allons étudier à ce sujet et où nous voyons qu'il a besoin de son beau-père Jéthro pour apparemment une consigne d'ordre extrêmement élémentaire, comment organiser la hiérarchie minimum dans une société. C'est un premier paradoxe sur lequel nous allons réfléchir. Le deuxième paradoxe, c'est que dans la deuxième personnalité de Moïse, dans le deuxième visage de Moïse, que nous avons étudié donc au premier trimestre, l'homme de la prière et de la prophétie, et nous avons étudié le lien entre la prophétie et la prière, si vous en souvenez ce qui était là, je me suis basé sur un verset qui parle d'Abraham, le premier homme dont la Bible dit qu'il a prié, qu'il a été prophète, et les deux fonctions, les deux capacités sont étroitement liées dans le verset. Vehu itpalel baradecha ki navi hu. Achève eshetaish ki navi hu, vehu itpalel baradecha. C'est, je vous rappelle très brièvement, lors d'un épisode qu'il faudrait étudier pour lui-même, d'un des voyages du patriarche dans la civilisation égyptienne, lorsque le pharaon prend la femme d'Abraham, Sarah, l'Égypte est frappée de plaies, de stérilité, dans une civilisation où on ne comprend pas ce qu'Abraham essaye de faire comprendre, que sa femme c'est sa sœur, que la femme est la sœur, dans une civilisation où les rois épousaient leurs sœurs, de leurs sœurs faisaient leurs femmes, ce message des patriarches n'est pas compris, le pharaon prend Sarah en disant que puisqu'elle n'est que sa sœur, elle n'est donc pas sa femme, c'est un raisonnement que je réintègre, et alors cette Égypte est frappée de stérilité. Et il faut donc comprendre le lien entre le récit et le fait que raconte le récit. Une civilisation ne comprend pas un tel message, les engendrements n'ont plus de sens. Et alors, lorsque Dieu se révèle au pharaon pour lui faire comprendre sa faute, son erreur, le pharaon plaide, et puis finalement, Dieu accepte qu'il soit, non pas pardonné, mais en tout cas en sursis, et il dit ceci, le verset que j'ai cité tout à l'heure, « Rends la femme à cet homme, la femme mariée à cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi. » Indépendamment du contenu difficile du raisonnement, le Talmud objecte, c'est parce qu'il est prophète qu'il faut lui rendre sa femme, mais s'il n'était pas prophète. Vous voyez quelle est la difficulté du verset. C'est pas ce que je vais étudier, mais le Talmud met en évidence le fait que la capacité de prophétie est liée à la capacité de prière. C'est ce que nous avions étudié sur des exemples concernant Moïse la première fois. Là, le lien entre Dieu et l'homme, c'est la parole. Lorsque la parole va de Dieu à l'homme, c'est la prophétie. Lorsque la parole va de l'homme à Dieu, c'est la prière. Et c'est cette même parole qui circule dans la prophétie et dans la prière. Et bien là encore, le paradoxe qui apparaît concernant cette personnalité de Moïse, c'est que la Bible semble nous dire qu'il ne pouvait pas parler, puisque c'est la manière habituelle dont les traducteurs traduisent ces deux expressions, que kaved peh et kaved lashon, littéralement lourd de bouche et lourd de langue, on traduit, il bégayait. Alors imaginez le paradoxe. Quel est l'homme que Dieu choisit pour être le porte-parole de la prophétie et de la prière, de la prière et de la prophétie? Un homme dont le texte nous dit tranquillement qu'il bégayait, apparemment. Donc il faut s'y réfléchir, qu'est-ce que ça signifie, ces deux paradoxes. Mais aujourd'hui, nous allons surtout nous pencher sur la personnalité de Moïse en tant qu'homme politique. Eh bien, je résume ce résumé par une seule formule, mais en vous demandant quand même d'essayer d'arranger ce qui se passe avec ce micro, parce que j'ai un écho qui est très fatigant. Est-ce qu'il y a un spécialiste ? Dans les autres conférences, ça marche bien ? Ou c'est la même chose ? Ça y est, ça va mieux ? Non ? Oui, essayez d'arranger ça, j'ai pas ça. Oui, c'est la même chose, hein? Voilà, c'est mieux? Presque. Oh, les loin. D'accord. Une minute, je cherche la première référence. Bon, écoutez, la première référence que nous allons étudier ne se trouve pas dans vos textes. Essayez de faire un effort de Torah orale, d'écoute sans texte. Et en fait, je voudrais, pour définir la personnalité multiple de Moïse, étudier un verset à propos duquel un enseignement a été donné sur les différentes fonctions des institutions principales de la société biblique. Ce texte se trouve aux albis de la paracha de Terouma. Donc c'est dans l'Exode. Je vous donne la référence, vous reverrez le texte par vous-même. Voilà, c'est au chapitre 25, verset 5. Et j'étudierai deux indications, mais d'abord le plan, ce qui peut nous servir de modèle pour comprendre comment fonctionnaient les institutions de la société biblique. Et nous verrons qu'il y a quatre institutions principales et que Moïse en a eu la capacité. Dans le programme que nous avons choisi, je n'ai mis en évidence que deux de ces capacités, la capacité de prophétie, je vous rappelle, qui est relié à la capacité de prière, et d'autre part, la capacité de chef politique, ce que nous pourrions dire en français, sa capacité politique tout court. En fait, il y avait quatre pouvoirs dans la société biblique. C'est le pouvoir politique, qui, d'après les circonstances de ce temps culturel, était le pouvoir de la royauté. Alors retenez le terme de Melech, le roi. Ensuite, le pouvoir juridique. C'était exactement ce que l'on appelle dans toutes les civilisations, les juridictions. Il y avait un pouvoir juridique et la personne de ce type de ce pouvoir, c'est le juge. Et retenez le terme de chauffette. Ensuite, le pouvoir sacerdotal, qui est le pouvoir des... je ne veux pas dire le pouvoir des prêtres, ça signifierait la théocratie, c'est tout à fait autre chose. Mais en tout cas, la prérogative des prêtres. Et c'est le Kohen, et enfin le pouvoir prophétique. Quand la société biblique a pu fonctionner, quelque temps, deux fois dans l'histoire, au temps du premier temple, et de manière plus atténuée au temps du premier temple, eh bien, il y avait ces quatre fonctions, et la Torah a précisé les droits et les devoirs de ces quatre sortes de personnages. Il n'y avait pas forcément de cumul de ces fonctions. Certaines pouvaient cumuler, mais d'autres, il était interdit de les faire cumuler. Et en particulier, le pouvoir du roi et le pouvoir du prêtre. Et c'est pourquoi, c'est un autre sujet, mais c'est important de le signaler, la notion de théocratie que l'on projette de manière abusive sur la législation biblique, sur la législation de la loi de Moïse, est une notion interdite par la loi de Moïse. Le roi n'a pas le droit d'être prêtre, le prêtre n'a pas le droit d'être roi. N'y entendez aucune allusion aux problèmes spécifiques de la société juive contemporaine. Quoi qu'il en soit, il y avait vraiment quatre pouvoirs. Je donnerai un exemple de cumul possible. Le roi pouvait être juge, le roi pouvait être prophète, mais dans tous les cas, le roi ne pouvait pas être prêtre et le prêtre ne pouvait pas être roi. Quelles que soient les exceptions apparentes dans l'histoire d'Israël, c'est une anomalie et la législation de la Torah interdit radicalement la théocratie. Et à quel point nous sommes trompés par la projection de mentalités étrangères à la tradition hébraïque et juive sur la lecture hébraïque de la Bible. Si cette question vous intéresse plus, vous m'interrogerez en fin d'exposé. Alors voici quel est le verset que je voudrais signaler. C'est le verset 5 du chapitre 25 de l'Exode. Le verset dit ceci. « Ve'asuli mikdash, ils feront pour moi un sanctuaire, ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux. » J'avais espéré que vous auriez le verset sous les yeux, mais je vous demanderai de le revoir après vous sur texte et de voir ce que Rashi signale comme commentaire. Je relis le verset, vous allez percevoir par vous-même, à la lecture même de la traduction directe, qu'il y a de nouveau quelque chose à étudier. « Ve'asuli mikdash, ils me feront un sanctuaire, ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux. » On s'attendrait à ce que le verset dise « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en lui dans le sanctuaire. » Ce n'est pas du tout ce que le verset dit. « L'onemar betocho et la betocham. » S'ils me font un sanctuaire, c'est-à-dire, je reprends des termes bibliques, une maison de rendez-vous entre Dieu et l'homme, alors la présence divine, la présence de Dieu résidera, la Shekhina, dans le Mishkan, le lieu de la résidence, parmi eux, dans la société d'Israël. Une lecture mystique que je laisse un peu de côté provisoirement consisterait à dire qu'en chacun d'entre nous, il y a la résidence de la Shekhina. Tout ça, c'est un peu abusif par rapport à ce verset. Le verset veut dire « Betocham » en eux, en tant que société. Et on peut ajouter, donc en chacun d'entre eux, il y aurait une étincelle divine qui est le reflet de la présence de la Shekhina en Israël. Mais l'utilisation abusive de ce type d'enseignement me porte à être très prudent sur ces inductions. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Parce que ça risque de basculer ailleurs. C'est pas faux que c'est vrai, mais c'est pas vrai que c'est vrai, vraiment. Je sais pas comment dire ça. Vous avez compris. Il y a de telles inconséquences qui viennent de la difficulté de traduction de l'hébreu biblique, l'hébreu des prophètes, en toute autre langue, fût-ce l'hébreu parlé, je dirais pas l'israélien, mais l'hébreu parlé de ceux qui n'ont pas étudié l'hébreu dans la signification que l'hébreu avait chez les prophètes, le Lashon HaKodesh. Il y a de telles énormités qui risquent d'être dites qu'il faut bien avoir ça en esprit. Je crois que la consigne la plus importante, c'est de traduire et de lire exactement ce qu'il y a d'écrit avant d'interpréter. Et lorsqu'on a lu exactement, on s'aperçoit qu'il est inutile d'interpréter. Non seulement inutile, mais dangereux. Et au fond, je me demande si pour nous les Juifs qui sont héritiers des Hébreux, toute l'étude ne consiste pas d'abord essentiellement à étudier la langue des Hébreux pour pouvoir lire le texte comme les Hébreux le lisaient et l'avaient reçu, en tout cas et l'écoutaient. Eh bien, je prendrai donc comme postulat de lecture, c'est pour moi plus qu'un postulat, que la Shekhina, la présence de Dieu, résidera à travers les quatre fonctions de la gestion, si j'ose dire, de la société d'Israël. Il y a quatre formes de providence, qui correspondent d'ailleurs à la manifestation des quatre lettres du nom de Dieu dans le monde de la réalité, chacun de ses pouvoirs ayant sa racine dans la valeur de chacune de ces quatre lettres, et c'est donc le pouvoir civil, politique, le pouvoir juridique, le pouvoir sacerdotal et le pouvoir prophétique. Si nous prenons d'ailleurs, c'est un enseignement qui nous vient du Hafetz Chaim, si nous prenons la première lettre de ces quatre intitulés, Melech, Shofet, Kohen, Navi, on a précisément le mot de Mishkan. Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, le lieu de la Shrina, le lieu de la résidence. Lorsque la société biblique a été détruite, alors ces quatre pouvoirs ont disparu. Ils ont été remplacés. Alors là, je marche sur des œufs de Pâques. Ils ont été remplacés par une fonction qui est la fonction du rabbin, la fonction rabbinique. C'est-à-dire la société juive est dirigée par essentiellement par le rabbin, et il n'y avait plus, comme il y avait au temps biblique, nous sommes dans un temps de reconstitution très lente de ces différentes institutions, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure, c'est pas tellement dans notre sujet, et c'est la figure du rabbin qui va remplacer la figure du roi, du juge, du prêtre et du prophète. Ceux qui sont habitués à la vie des communautés juives traditionnelles savent par expérience qu'il y a des rabbins qui sont plutôt des rois, il y a des rabbins qui sont plutôt des juges, il y a des rabbins qui sont plutôt des prêtres et des rabbins qui sont plutôt des prophètes. Et encore, je vous dis ça en français, mais essayez de deviner que c'est exact en hébreu. Mais la fonction du rabbin comme tel était celle du dayan, c'est-à-dire du juge au nom de la Torah. En fait, la fonction qui remplacerait, qui se substituerait comme substitut à celle du Kohen dans le temple, ce n'est pas du tout celle du rabbin. Je vais peut-être vous étonner ou peut-être vous interroger. D'après vous, qui remplace le Kohen si ce n'est pas le rabbin? Parlez plus fort. Le Chazan, très bien. C'est celui qui prie pour l'assemblée. Et il ne faudrait pas dire le Chazan, il faudrait dire le Shaliar Tzibur, le délégué de l'assemblée pour la prière. Chazan, ça se traduit cantor. Vous voyez le changement de critères. C'est-à-dire l'homme qui était choisi comme délégué pour la prière et qui est à la place du Kohen entre Dieu et l'homme pour la prière, pour l'intercession de la prière, était choisi pour sa piété. Et en plus, on lui demandait d'avoir une belle voix. Mais les critères y ont changé. On lui demande surtout d'avoir une belle voix et on ne parle pas du reste. Pas toujours, en tout cas. Je vais vous raconter une histoire de Chazan qui me revient à l'esprit. J'ai connu il y a très longtemps un Chazan qui était extrêmement talentueux. Dans sa jeunesse, il avait hésité entre être chanteur de cabaret ou Chazan. Et puis finalement, sa mère, qui était une sainte femme, l'avait obligé à devenir Chazan. Il y a plusieurs cas célèbres dans l'histoire des communautés juives. Ou chanteur d'opéra, ou compositeur d'opéra d'ailleurs. Et quoi qu'il en soit, dans une conversation, un jour, il m'a dit, tu sais, il y a deux sortes d'oiseaux. Et la Torah les classifie, ceux qui sont cachers, qu'on peut manger, et ceux qui ne sont pas cachers. Or, on s'aperçoit que les oiseaux qui ne sont pas cachers savent chanter. Et les oiseaux qui sont cachers ne savent pas chanter. Alors, c'est le piège des Chazanim. Bien. En tout cas, pour revenir au sujet... Nous voyons qu'il y a ces quatre formes de pouvoir, et Moïse en a été capable des quatre. Et nous avons la figure de Moïse comme chef politique, nous avons la figure de Moïse comme juge, comme chef du Sanhédrin, comme le premier chef du tribunal suprême, et nous verrons d'ailleurs que cette hiérarchie juridique a été installée sur les conseils de Jéthro, son beau-père. C'est le paradoxe que nous allons étudier tout à l'heure. Et puis, Moïse comme prêtre, il y a une période de sa vie où il a fonctionné comme prêtre, c'est pour l'inauguration du tabernacle, les 7 jours des Milouim, selon le langage biblique, les 7 jours où les Lévites et les Kohanim se sont préparés au premier culte d'intronisation du tabernacle. Aujourd'hui, le mot de Milouim a un autre sens en hébreu moderne, un sens qu'il avait d'ailleurs aussi dans la Bible, sont les périodes de réserve que les soldats de l'armée d'Israël font, qui s'appellent des Milouim. Vous savez que très souvent, il n'y a pas que des analogies conventionnelles dans la signification des termes en hébreu. Effectivement, les Lévites et les Kohanim devaient faire des exercices de préparation avant de pouvoir être, si j'ose dire, bons pour le service du temple. C'était leur jour de Milouim. Et donc, pendant ces 7 jours, avant l'intronisation des... la Torah nous raconte toutes ces cérémonies d'intronisation, c'est comme ça qu'on est en français, d'inauguration du tabernacle dans les parachutes que nous sommes en train de lire ces différentes semaines. Donc il a fonctionné comme Cohen, bien que ce ne soit pas son rôle essentiel. Le rôle essentiel du Cohen, c'était celui de Aaron. Le rôle essentiel du juge, c'est celui du roi d'Israël. C'est surtout le roi David qui va apparaître dans sa fonction de juge d'Israël. Et le rôle essentiel de Moïse, c'était le prophète qui révèle la loi. Donc il est lié un peu à ses fonctions, mais il a dû servir aussi aux autres fonctions, et de roi, et de juge, et de prêtre, sa fonction essentielle étant évidemment celle du prophète, celui qui est le porte-parole de la parole de l'homme vers Dieu et le porte-parole de la parole de Dieu vers l'homme. Eh bien, il est important de se rendre compte de cela, c'est cette capacité exceptionnelle de Moïse comme médiateur entre la Providence et Israël au moment de l'initiation de l'histoire d'Israël à la sortie d'Égypte. C'est la première introduction que je voulais vous signaler. Nous allons étudier très brièvement un premier texte, je crois qu'on vous l'a signalé, là, Shemot Bet, dans le deuxième chapitre de Shemot, qui va nous expliquer les circonstances de l'initiative de Moïse en tant que chef politique. Je vous donnerai d'ailleurs une référence que vous pourrez étudier par vous-même dans un texte du Rav Nachman de Breslav sur la question. Je vous donnerai la référence tout à l'heure. Eh bien, donc, nous sommes au deuxième chapitre de l'Exode et je vous lis brièvement les versets qui vont nous occuper. À partir du verset 11, c'est bien cela ? Oui. Vous les avez sous les yeux. Vaï, bayami mahem. Et il arriva en ces jours-là, vaïgdal Moshe, et Moïse grandit. Vaïetse elechav, et il sortit vers ses frères. Vaïar besivlotam, il vit leur fardeau. Leur fardeau, il faudrait trouver un mot en français plus dur que fardeau. Sevel, c'est les épreuves. C'est le fait de saval, c'est un portefeuille. Celui qui porte, mais c'est plus que simplement le fait de porter un fardeau, c'est le fait d'en être affecté comme une épreuve. Vaya Rish Mitzri, et il vit un homme égyptien, Maké Ish Ivri Me'echav, frappant un homme hébreu de ses frères. Je voudrais vous rendre attentif au fait qu'il y a deux fois le mot de frère dans le verset. Alors je reprends le texte. Vayetse Elechav, il sortit vers ses frères. Début du verset. Vous y êtes ? Or, jusque-là, on ne sait pas qui sont ses frères. C'est le premier point sur lequel il faut mettre l'accent. Cela pourrait être les Égyptiens, cela pourrait être les Hébreux. Je dis souvent que Moïse, comme pour sa part Joseph, qui avait été le point de départ de cette histoire, que Moïse va se présenter dans la première figure que nous retenons de lui dans cette lecture, comme, et là j'emploie des termes anachroniques, comme le modèle, le paradigme, si j'ose dire, par excellence, de ce que nous appelons un juge de diaspora. Un juge de diaspora. Vous suivez quand même malgré cet écho. Bon. Et en ce sens que Moïse était vraiment de double appartenance, si j'ose dire, de double identité, d'une certaine manière. Dans son identité publique, il est égyptien, il n'est connu que comme cela. Mais de son identité privée, dans son fort intérieur, il est hébreu et que cela. Et quel hébreu ? Le fils du chef de la tribu de Lévi. C'est-à-dire il est l'hébreu par excellence. Et pourtant, cet hébreu par excellence va apparaître dans l'histoire comme l'égyptien par excellence. Alors, je pense que vous percevez à quel point la personnalité de Moïse doit être comprise. Nous sommes encore une fois, a posteriori, tellement familiers à cette histoire, que nous la lisons comme une anecdote conte de fées, si j'ose dire, mais c'est un fait, et pas seulement une fée, c'est quelque chose de fait, qu'il y a là un message extrêmement important à comprendre. Comment se fait-il que l'histoire de Moïse commence de manière aussi forte comme étant cette histoire d'un paradoxe d'identité totalement égyptien pour l'extérieur, totalement hébreu pour l'intérieur. Et à ce moment du récit, Très peu de personnages sont au courant de son identité complexe et ambivalente et ambiguë. C'est lui, bien entendu, sa sœur, Myriam, son frère, Aaron, et sa mère, Yocheved, et pas plus, et peut-être la fille du pharaon qui avait des doutes. En tout cas, si elle n'avait pas des doutes, elle avait la moitié d'un doute. Ça s'appelle une chassidoute. Mais quoi qu'il en soit, elle soupçonnait que cet enfant était peut-être un des enfants des Hébreux, comme nous le rappelle le Midrash, mais dans tous les cas, une sorte de clandestinité quant à cette identité qui va être une identité politique très forte dont nous allons essayer de suivre les péripéties. Il commence par être exactement cet homme qu'a été Joseph, l'Hébreu s'habillant en Égyptien pour être au service de la civilisation du temps, le pharaon de Joseph. Et puis c'est Moïse, qui est ce même Hébreu, habillé en Égyptien, au service de la civilisation du temps, mais qui se dépouille de l'habit égyptien et qui, dans son initiative d'ordre politique, aucune révélation d'aucun sens, ni religieux, ni spirituel. C'est pour le moment, nous sommes en péripétie d'ordre sociopolitique. Prendre l'initiative de faire basculer l'histoire du côté des Hébreux. Alors, j'ai l'habitude de dire et de penser d'abord que c'est très consolant pour l'identité marane, c'est un mot de Poliakov, de tout juif de diaspora. Tout juif de diaspora est d'une certaine manière d'identité marane, c'est-à-dire hébreu à l'intérieur et égyptien à l'extérieur. Égyptien, autre chose, mais c'est toujours égyptien. Effectivement, si c'est le cas de Moïse, tous les espoirs sont permis pour quiconque, puisque c'est le cas de Moïse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne suffit pas de se mettre à l'abri du souvenir de Moïse, de mémoriser Moïse tel qu'il a été existé, ce serait imaginaire, cette mémoire-là, et il faut suivre son cheminement, le comprendre et savoir où il aboutit. Et quoi qu'il en soit, je voudrais signaler cela, l'histoire des Hébreux en Égypte, de la diaspora des Hébreux en Égypte, commence par une initiative de Joseph, et elle s'achève par une initiative de Moïse. Mais dans les deux cas, nous avons la même identité inversée. Joseph, c'est l'Hébreu au service du Pharaon, et il arrive au fait de la puissance et de la gloire. Et Moïse commence son histoire au fait de la puissance et de la gloire, mais c'est l'Hébreu au service de l'Égyptien qui dépouille l'habit égyptien, qui va opter pour les Hébreux. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, et ce que je voulais signaler, c'est que dans cette personnalité, ce profil d'identité de Moïse au premier stade de son histoire, il n'y a rien qui le relie en quoi que ce soit à la révélation de Dieu aux Hébreux. C'est pas Moïse, prophète de la Bible. C'est Moïse, homme politique. Alors nous relisons le verset pour précisément percevoir que son choix est un choix d'ordre de critères sociopolitiques. Et c'est un choix d'ordre moral. Relisons. Vaïhi bayamim ahem. Et il arriva en ces jours-là. Vaïgdal Moshe. Moïse grandit. Vaïetse el Echav. Il sortit vers ses frères. Et là, c'est ouvert. Il peut aller vers ses frères les Égyptiens comme il peut aller vers ses frères les Hébreux. Ce n'est qu'à la fin, lorsqu'il va assister à la scène de la persécution de l'Hébreu par l'Égyptien, qu'il décide que ses frères sont les Hébreux. Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez à quel point le verset est dense, mais en tout cas extrêmement clair, et il y a un ordre du verset. Je vous citerai en parenthèse importante une indication du Midrash Rabbah sur l'expression « Vaïgdal Moshe » et « Moïse grandit ». Plus loin, vous avez, plus haut, au verset 10, mais vous ne l'avez pas sous les yeux, nous avons le verset « Vaïgdal Ayeled » et l'enfant grandit, et la fille du Pharaon l'amena chez le Pharaon. Et alors, cette répétition est expliquée par le commentaire. C'est dans Rashi, vous le reverrez dans le texte. Vaïdal la Yelet, c'est le fait de grandir en âge. L'enfant grandit en âge. Vaïdal Moshe, et Moïse grandit. On a déjà dit qu'il avait grandi en âge. Là, il grandit en vertu. Il grandit en grandeur. Il faut comprendre le sens hébreu du mot de grandeur, la gdoula en hébreu. Pour les kabbalistes, la lecture est très simple. C'est équivalent de chesed. Là, charité, la grâce de générosité, la vertu qui consiste à faire passer autrui avant soi-même. Relisez Lévinas. Ça, c'est la charité, la mida de Chesed, qui s'appelle pour les kabbalistes Gedula, la grandeur. Qu'est-ce que c'est? Là, je me base sur un commentaire du Malbim. Qu'est-ce que c'est être grand? C'est de s'occuper de plus petit que soi. C'est ça la grandeur. Je ne sais pas si c'est clair. Hein, c'est pas être grand, ni de taille, ni de stature, pas seulement de stature physique, mais même morale, intellectuelle. Être grand, c'est de s'occuper de plus petit. Je vous donne un exemple de la sémantique hébraïque à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire être gibor, être vaillant? Nous avons une Mishnah qui l'explique dans la Maseret Avot. Être vaillant, être fort, c'est pas être plus fort que quelqu'un d'autre. Parce que de deux choses l'une, ou l'autre est plus fort, alors il est plus fort. Ou l'autre est plus faible, alors c'est pas qu'on est fort, c'est que l'autre est faible. Donc qu'est-ce que ça veut dire être fort? Et la Mishnah répond, c'est être plus fort que soi-même. À Kovesh et Titro, celui capable de maîtriser sa propre nature. C'est de lui qu'on dira qu'il est fort. Parce que le raisonnement est très simple et très important. Être plus fort qu'un plus faible, c'est pas être fort. C'est que l'autre est plus faible. Alors la vraie vaillance, c'est une vaillance qui se mesure aux critères de maîtrise de soi. De la même manière, qu'est-ce que ça veut dire Vaïgdal Moshe? Et Moïse a grandi en vertu, en grandeur. Eh bien, c'est qu'il était prêt à aller vers ses frères. C'est ça, la grandeur, c'est d'aller vers ses frères. C'est ce que le Midrash dit en toutes lettres. Et Zehudula, où est la grandeur? C'est d'aller vers ses frères. Lorsqu'on connaît, lorsqu'on se rappelle la manière dont le récit de l'histoire humaine commence dans le texte biblique, on s'aperçoit que arriver à savoir retrouver ses frères, c'est vraiment quelque chose qui se cherche dans tout le récit depuis l'origine de l'histoire des hommes. Depuis Caïn et Abel, où l'identité de frère disparaît. Et j'ai souvent dénommé cela, cette lecture du récit des engendrements dans la Bible, une recherche en fraternité. Il y a une recherche de qui est capable d'être frère, parce que semble-t-il, c'est la chose la plus difficile à réussir, être frère de frère. Je pense que cette étude vous est familière, sinon vous m'interrogerez, je donnerai quelques indications supplémentaires. Peut-être j'ouvrirai ici une parenthèse qui me semble assez éclairante. Si vous vous référez au premier verset des généalogies du premier homme, vous verrez que le premier fils de l'homme engendré, c'est Caïn. Caïn en français. Et puis, le verset ajoute, « Va tosef » en parlant de Chava, sa mère, « Va tosef la ledet » et elle ajouta d'enfanter « Et Achiv, son frère, et Evel, Abel. » Et alors, Abel est appelé frère. Frère dit de son identité. Ce n'est pas simplement une indication d'état civil, c'est une indication d'identité. Caïn est le fils, mais voilà que Abel naît comme le frère du fils. Il est capable d'être frère. Par le seul fait qu'il est né après, il reconnaît que c'est l'autre qui est avant, et c'est cela être frère, pouvoir être l'accompagnateur du fils. Donc c'est une catégorie d'identité extrêmement importante. Or, cette relation d'altérité, cette relation de fraternité ne réussit pas et Caïn supprime Abel, l'être frère disparaît et le mot de frère disparaît du récit jusqu'au moment où Abraham le réintègre dans le récit. Et à partir de l'histoire d'Abraham, le mot de frère et le mot de sœur entrent dans le récit à profusion. En fait, on peut intituler ce récit « La recherche en fraternité ». Qui est capable d'être frère, c'est avec lui que Dieu va contracter alliance pour être le berger des autres. Vous voyez cette lecture du récit. Abel, qui est frère, est berger. Comme on dit en français, il est pasteur. Et dans les termes modernes, on dira il est prêtre. Frère, berger, pasteur, Cohen, c'est cette ligne-là qui se cherche. Et c'est à travers cette ligne que l'alliance va être contractée. Or, lorsque l'être frère a disparu, vous me direz si c'est suffisamment clair, je ne sais pas pourquoi je suis rentré dans cette parenthèse. Lorsque l'être frère a disparu, au verset suivant, on voit que Dieu suscite le fils. Et Caïn va avoir un fils qui s'appelle Hanor. Hanor se rattache en hébreu à une racine qui signifie l'éducateur, le mechaner, chinur. Oui, la fonction éducatrice qui était celle du frère a disparu. Dieu suscite un substitut de cette fonction d'appui de l'altérité, la relation à autrui, avec le frère, c'est trop difficile, alors on va tenter avec le fils. Il va y avoir une deuxième catastrophe, l'identité humaine perd sa dignité parce que Caïn donne le nom du fils à la ville. C'est la ville qui est le réceptacle, le véhicule, la valeur. Elle reçoit le nom qui est pris à l'homme. C'est encore un autre sujet, mais important. C'est la deuxième catastrophe. Après la suppression du frère, il y a la suppression de l'identité humaine parce que le nom est pris à l'homme et donné à la ville. Et l'organisation de la cité va se substituer au problème moral de la relation des frères entre eux. C'est tout à fait, si vous voulez, ce qui se mettra en place dans l'affrontement de ces deux civilisations, l'égyptienne et la civilisation biblique. Et c'est d'ailleurs ce passage que Moïse va faire. L'histoire ne sera pas l'histoire de la cité, l'histoire sera l'histoire de la société biblique, la société des frères, et non pas l'administration de la cité, des citoyens, pas seulement citadins. On n'est plus membre d'une famille humaine, on est numéro d'ordre dans une citoyenneté, c'est-à-dire le numéro de la carte d'identité va se substituer au nom. Enfin, c'est cette vision-là qui nous est installée. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a beaucoup de courants de civilisation qui ont le culte du fils, comme si la relation à autrui, autrui étant le frère, est naturellement impossible, et qu'il y a un substitut qui va être érigé d'ailleurs en culte. C'est l'autrui sera le fils. On peut aimer le fils de façon plus facile, il est plus aimable dans l'ordre de la relation d'altérité que le frère. Ça m'a fait comprendre.